With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tout le monde, a embrassé, sans trop y réfléchir, l'explosion des nouveaux usages numériques et voyant la chose prendre chaque jour un peu plus d'ampleur, se doutait bien qu'on trouverait là un réservoir à fiction pour les créateurs actuels. Aussi, on a vu arriver des thrillers, des polars, des comédies romantiques ou des films d'horreur prenant pour base ou pour pilier le web et les réseaux sociaux, comme le fait par exemple Assassination Nation, auquel l'épisode du jour sera consacré, grâce à un duo de hackers patentés de la critique. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Idées, épisode 163, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Assassination Nation donc se déroule dans la petite ville de Salem, bien connue pour ses sorcières, notamment Salem, où on suit une bande d'adolescentes bien de leur époque et donc excessivement connectées qui vont se retrouver au cœur d'un dangereux marasme lorsqu'un piratage dévoile les données personnelles d'une bonne partie des habitants de la ville, plongeant Salem dans le chaos, surtout que l'une d'entre elles est directement accusée d'en être l'auteur, ce qui va pousser la petite bande à prendre les armes pour survivre.
My name is Lily Coulson, and I'm 18 years old. These are my three best friends, Em, Bex, and Sarah. And this is the story of how my town, Salem, lost its mind.
Derrière la caméra, c'est Sam Levinson, le fils de Barry Levinson. Et au casting, on trouve Odessa Young, Suki Waterhouse, Harry Neff, la chanteuse Abra ou encore Bill Skarsgård qui jouait Pennywise dans le remake de ça l'an dernier. Votre avis sur cette Assassination Nation? Les amis, je dis les amis, mais pourquoi? Parce que c'est Julien Dupuis, évidemment, qui va prendre la parole en premier, parce que c'est l'usage.
Faut que les gens fassent une pétition,
émission,
en fait, hein, pour que ça
pour
change.
Que ça change. Non, je crois pas.
Ou alors, faut descendre dans la rue, ouais, en voilà. Arborant... Les gilets oranges.
Des gilets oranges, voilà. Un hommage à ta
rousseur. Exactement,
les gilets roux. Et donc, Julien?
Donc, j'en appelle au peuple. Alors, écoute, non, il y a plein de soucis, en fait, sur Assassination Nation. Je pense que un des problèmes de base, en fait, le socle du souci pour moi, hein, c'est que c'est un film qui est réalisé donc, par le fils de Barry Levinson. Alors, moi, je vais pas l'accuser d'être qui il est, ce brave garçon, mais ça sent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que.
Surtout qu'il a travaillé avec son père, notamment sur The Wizard of Lies.
Oui, il jouait même dans Toys, hein, je crois.
Il jouait dans Toys, exactement, ça. Mais il a co-signé The Wizard of Lies l'année dernière.
Donc, en fait, le truc, enfin, moi, l'impression que donne, en fait, le film, c'est qu'il parle en fait d'un petit groupe de la population contemporaine qui existe, hein, qui est donc cette jeunesse dorée américaine qui vit dans les zones suburbaines plutôt cossues et plutôt bien protégées. Et qui ont les drames inhérents à leurs conditions. En l'occurrence, enfin, c'est un peu l'impression que donne le film, c'est-à-dire que quand tu te prends une volée de bois vert sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la fin de ta vie, quoi. Alors, tous les sujets sont bons et tous les points de vue sont bons pour faire un film, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore faut-il avoir un tout petit peu de recul par rapport à ce que tu dis, rajouter de la perspective, rajouter de l'angle, du débat, en fait, pour que tout ça, en fait, provoque de la dramaturgie intéressante. Là, en l'occurrence, il n'y a rien. C'est extrêmement basique, c'est extrêmement binaire, et tu as un peu l'impression de voir une crisounette d'adolescent qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui n'est pas curieux, qui finalement tourne en sur lui-même, en fait, tourne en boucle. Pour moi, ça, c'est le socle de base. Bon, je sais pas comment Stéphane rebondira là-dessus, mais pour moi, ça, c'est le problème, en fait, de base de ce film. Après, il y a plein d'autres soucis dans le film, et il y a notamment un autre truc qui est beaucoup 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 plus accessoire, mais qui en même temps, moi, me pose problème, et je trouve, et en plus édifiant, en fait, sur une des dérives d'un certain type de cinéma de genre un peu autorisant aujourd'hui, qui est le rapport au cinéma bis. C'est-à-dire que le Assassination Nation, c'est un film qui cite allègrement et de façon très littérale parfois le giallo italien, le cinéma d'exploitation japonais des années 70, toute la série des Femmes Scorpions par exemple. Ces références en fait sont dévitalisées en fait. Mmh. Elles sont tellement coupées en fait de ce qui a pu générer dans la culture de façon organique ces productions-là, de ce qui a pu motiver leur rage et justifier ces envies plastiques, par exemple dans le baroque et tout, que pour moi elles sont totalement dévitalisées. J'ai l'impression en fait de voir une espèce de un peu de best-of YouTube en fait, avec juste les meilleurs moments en fait de tous ces films-là, sans que Sam Levinson ne connaisse, disons de façon viscérale, et ne prenne de façon viscérale en fait ce que ces films-là peuvent représenter. Et là, du coup, je m'écarte en fait de tout le discours en fait du film et de tout son propos. Mais il y a pour moi là une vraie problématique au niveau genre en fait, et histoire du genre. C'est-à-dire que là, ça fait partie en fait de ces films qui pour moi se retrouvent aussi là sur ce point-là dans une impasse. Il y a un petit point positif pour moi à ajouter dans le film quand même, ouais, c'est que qui est corollaire en fait de tout ce que je viens de dire, c'est que moi je pense qu'il y a une vraie sincérité dans le film. C'est-à-dire que je pense que ce garçon-là, Sam Levinson, il vit son film, il a envie de ce film, il a travaillé ce film, et je pense même qu'il a eu des bons choix pour certains postes clés techniques. Je pense en particulier à un monsieur qui s'appelle Marcel Rêve, qui est un directeur de la photo, et que moi j'avais repéré son travail en fait dans un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle La Lune de Jupiter. Je crois qu'on en a pas parlé dans nos ciné et nous aurions dû. Et je trouve que son travail, mais bon, j'ai une reco plus tard, donc je pourrais développer un petit peu plus sur ce film. Mais non, mais je veux dire, son travail reste intéressant. C'est-à-dire, c'est un film qui est vraiment photographié, qui prend pas les raccourcis qu'on voit souvent dans le cinéma numérique, notamment dans les scènes de nuit, qui éclaire vraiment plein de pâtés de maison, il y a quand même des envies de plan, il y a quand même des envies de lumière, il y a quand même des envies esthétiques, il y a un long plan séquence à un moment qui est un peu la signature, la marque de fabrique de Marcel Rêve, il me semble, pour autant que je puisse juger de son œuvre. Il y a tout de même ça, quoi, si tu veux, dans le film. Mais bon, pour tout ça au service de finalement un projet qui est totalement vain et qui, par ce manque de recul, est assez irritant, je trouve.
Stéphane.
Ouais, il faut préciser qu'effectivement c'est un film de genre, c'est-à-dire au sens où tout ce qui se passe dedans c'est connecté à des scènes qu'on a l'habitude de voir dans les films de genre. Le truc, c'est que ce que dit Julien est vrai sur le cinéma d'exploitation en question, et le fait que ce soit dévitalisé, parce que c'est vraiment tu comprends en fait que c'est une référence. Nous en fait qui connaissons ces films-là, on comprend que c'est une référence parce qu'il en met deux images à un moment donné dans le film. Sinon en fait, pour moi, je...
Parce qu'il met des extraits de musique aussi.
Oui, mais le truc, c'est que je l'aurais pas vu parce que en fait, les personnages ne vivent absolument pas ça. Et c'est même pas tant que le spectateur puisse même reconnaître ça. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages, c'est des images de plus pour eux. C'est contrairement à, par exemple, pour faire une comparaison, True Romance, tu vois, où c'est la vie. Tout simplement, au moment où tu débarques dans le film, c'est la vie de Christian Slater, c'est sa vie de cinéphile, et il en a besoin, et il vit que avec ça. Et cette petite nana, elle arrive au milieu, et elle chamboule tout, quoi. Donc là, c'est pas ça du tout. Le problème, en fait, c'est qu'après, ça, c'est une formule aussi. C'est aussi ça, le problème de ce film, c'est que c'est quand même un peu The Purge. Mais c'est The Purge version chronique adolescente, tu vois, en colère, tu vois. Et effectivement, il faut préciser tout ça parce que moi je pense qu'on va pas mal parler du fond du film, qui est effectivement assez problématique. Le film commence par une, si je me souviens bien, hein, parce que c'est un peu un film qui s'oublie aussi au fur et à mesure où t'avances. Enfin, pendant que tu le regardes, t'oublies ce qui se passe au début, tu vois, sauf qu'en fait tu t'en rappelles parce que tu te dis, ah, mais ça, c'est vrai que j'avais vu cette image. En fait, c'est un film qui commence avec un espèce de condensé au début pour te dire, attention, trigger warning. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes avec ce type d'image, restez pas dans la salle, en gros, quoi. Pour moi, ça, j'appelle ça une promesse. C'est-à-dire que je suis venu voir ça, donc, c'est-à-dire que ça fait 5 minutes que le film a commencé, tu vas me promettre ça, tu vas me promettre quelque chose qui est censé me secouer. Bon, sachant que j'ai plus 20 ans. Donc je suis plus dans des non mais je suis plus dans des logiques à être triggered comme on dit tu vois comme on dit sur Twitter, tu vois. Donc et le problème c'est que ça trigger rien du tout du coup. C'est un peu
je découvre des expressions.
Ah oui, tu sais, bah c'est ce qu'il dit dans le film, trigger, attention à être triggered,
c'est une émission instructive. Hein.
Voilà. Je suis vieux.
Et donc en fait le problème c'est que t'es triggered avec rien du tout, parce que oui effectivement ça peut être violent mais c'est pas du tout viscéral. Ensuite, il y a quand même une problématique de t'as par exemple 4 personnages féminins qui sont donc les héroïnes qu'on voit sur l'affiche, qui prennent des poses à la Electra, ce que tu veux, etc., etc. Et en face, t'as donc le reste de la population. Donc tu pourrais croire que c'est un truc de seul contre tous, tu vois. Mmh. Non, c'est un système de fonctionnement contre un système, en fait, tu vois. Et là, d'un seul coup, bah, c'est très difficile pour toi déjà, en fait, de faire la comparaison entre les 4 nanas. Parce qu'elles vivent peut-être chacune leur problématique, mais fondamentalement, c'est les mêmes, tu vois. Y compris un personnage de trans, hein, qui est dans le groupe. Donc tu dis, bon, bah voilà, enfin, je veux dire, pour moi, j'avais l'impression de regarder, c'est la comparaison, je crois que je t'avais fait, qui est un peu bizarre, mais je me comprends. C'est un peu comme quand je regardais les premiers films de Michael Bay, c'est-à-dire que dans Pearl Harbor, il y a ce moment, en fait, où d'un seul coup, il dit, allez, venez, on va casser la gueule au Jap, là, et tout le monde marchait d'un seul pas, en fait, dans la direction du colonel, tu vois, à l'unisson. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais ces persos, ils peuvent pas exister, c'est quoi la différence, par exemple, entre Ben Affleck et Josh Hartnett, finalement, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes persos. Bah là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un groupe versus un plus gros groupe, et l'idée du film, c'est qu'en fait, elle donne raison à ce groupe des 4 nanas qui, dès le début, t'assènent quand même des leçons de vie, alors qu'elles ont 18 ans, quoi. Et du coup, ça, c'est un très gros problème. Le deuxième truc, et on en avait pareil parlé avec Julien, et je pense qu'il va rebondir aussi là-dessus, c'est que ça parle beaucoup de cul, mais il n'y a pas de cul du tout, hein.
Ce qui est éloquent en fait du mode de fonctionnement, je pense, de ces gens-là, en fait. Hein.
Oui, voilà,
c'est ça, c'est le truc d'allumeur, en fait.
Parce que, en gros, la problématique en fait du film vient de là. C'est-à-dire que, en gros, t'as le hacker qui dévoile en fait les secrets de toute la ville et de certaines personnes spécifiques, pointe du doigt comment finalement tu peux défaire une réputation juste en dévoilant les secrets des gens. Leur jardin secret, on va dire, sans vraiment finalement totalement remettre le truc en question, parce que ça, l'escalade est tellement énorme que fondamentalement, en fait, si tu veux, c'est pas le fait de dévoiler ses secrets et de s'attaquer à ces gens-là, que la populace, on va dire, s'attaque à ces gens-là, qui est problématique, c'est que juste, en fait, c'est des gens violents.
Oui.
L'idée qu'ils s'attaquent à ces gens-là n'est pas remise en question en soi, en fait. Oui. C'est la barbarie, la violence, en fait, que ça génère.
Voilà.
Ouais. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves, en fait, avec un film, effectivement, comme l'a dit Julien, extrêmement binaire. Je vais même citer Julien, ce qui m'a sorti, à la sortie du film. Il m'a dit, de toute façon, quand tu vis par le réseau social, tu meurs par le réseau social, quelque part.
Tu vois, je me souviens plus que j'avais dit ça.
C'est lui qui vit par l'épée, mourra par l'épée.
Non, mais c'est une manière de dire aussi que, effectivement, le film n'existe que à travers, en fait, l'importance que tu accordes à ce genre de problématique. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un stade, et Dieu merci, où c'est les réseaux sociaux qui vont sauver le monde. Si tu veux, tel qu'en fait, l'impression qu'on essaye de nous donner depuis quelques années, quoi. Donc je trouve ça assez... C'est un film dans l'air du temps, hein, totalement, qui va, à mon avis, mais vieillir à vitesse grand V, y compris par les gens qui sont censés l'aimer. Mais je sais pas qui ils sont, parce que c'est un film qui s'est complètement bidé aux États-Unis, mais vraiment violemment. Et qui est finalement extraordinairement consensuel. Parce que, encore une fois, l'idée de dire, bon, bah voilà, ces 4 nanas-là, elles sont pointées, je mets les guillemets, hein, comme des salopes par le comment dire, le reste de la ville, c'est une manière de dire, en gros, si tu veux, oui, elles ont le droit, ce qui est pas du tout un souci, tu vois, en soi, mais en fait sans jamais traiter le truc, puisque tu le vois pas frontalement ce qu'elles font, en fait. C'est-à-dire, par exemple, un des trucs qui est complètement hallucinant, c'est que le simple fait qu'elle ait des textos, il se passe rien avec un papa de la ville, suffit à foutre un bordel pas possible. Mais en fait, ce n'est que des textos. Elle a jamais couché avec lui, elles se sont jamais embrassées. Et voilà, enfin, tu te retrouves dans un espèce de truc où t'as l'impression qu'en fait, pour défendre ces personnages-là, il faut surtout pas montrer, en fait, faut surtout pas leur donner le... Enfin, c'est vous voyez, la populace, vous avez tort, c'est pas vraiment des salopes, tu vois, entre guillemets. Entre guillemets, quoi. Donc le truc, c'est que, enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est pas défendre ce type de perso, puisque, enfin, elles ont 18 ans, elles ont parfaitement le droit, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, donc à un moment donné, voilà. Sauf que le film ne va pas aussi loin que ça. Ouais. Et du coup, bah, ouais, c'est un film sans couilles, quoi, vraiment. C'est-à-dire que malgré l'image que le film essaye de renvoyer, c'est-à-dire l'aspect un peu je suis en colère, il y a des explosions de gore, un peu de machin, etc., ça marche jamais, t'achètes jamais le truc, et effectivement, après, il y a cette problématique de comment tu digères le cinéma de genre. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, ça va, j'ai l'impression avec aussi toute l'idée que finalement tout ça ce n'est que des images cool. Et quelque part, en fait, il y a beaucoup de films, en fait, on en parle beaucoup dans nos ciné de ce genre de choses, qui sortent aujourd'hui, en fait, qui essayent d'être les films de cette époque-là, et qui ne le sont pas du tout, parce que justement, en fait, ça a été conçu dans des contextes spécifiques, diffusé dans des endroits spécifiques où il faisait pas bon justement socialement d'aller jeter un œil à ces films-là, en fait, quand t'allais dans les cinémas de quartier ou ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui c'est à pignon sur rue, en fait, donc voilà.
Mais ce qui est assez marrant, du coup, c'est ce rapport presque réac au sexe, enfin c'est
quand même qui est pour le coup un
totalement
peu
totalement en fait. C'est-à-dire que c'est quand même marrant que ce film-là, avec ce discours qu'il a, avec cette espèce de positionnement qu'il a par rapport aux dictats sociaux, n'ait pas de souci à être relativement sanglant, parce que ça c'est quand même assez soft, ça, moi je trouve, graphiquement, même dans le film, c'est pas très très fort, mais bon,
c'est comme un purge, quoi.
C'est quand même assez sombre, c'est un Jason Blum, voilà, c'est ça, c'est une production Blumhouse, quoi, à peu près dans la moyenne au niveau du sang, il me semble, et que à côté de ça le sexe soit aussi soit autant caché, autant dans le non-dit, autant, je veux dire, moi, j'aurais aimé, au moins, tant qu'à avoir ce film-là et tout, que le sexe soit quelque chose de festif et qu'il soit vécu par les personnages. Hein. Que moi, en tant que spectateur, je puisse, et c'est pas que mon côté lubrique qui parle
si,
là,
essentiellement.
Ça l'est aussi, évidemment, mais que je le sente, en fait, de façon organique. Et là, c'est quand même assez... Ça te met dans une posture un peu bizarre, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des personnages qui en parlent tout le temps, qui disent qu'ils mettent du porno un peu grave et tout le temps, et le film ne montre rien. Les personnages, t'as l'impression qu'ils sont super soft là-dessus.
C'en est même à un point.
C'est là où c'est très ado aussi, et ça ne prend pas de perspective.
C'en est même à un point où le personnage de trans, en fait, il est dévoilé après sa scène de sexe. Ce qui veut dire que nous, en fait, on est en train de se dire, mais attends, c'est un trans ou pas, ce personnage-là? On se posait vraiment la question, est-ce qu'elle finisse par le dire, justement parce qu'elle a couché avec un garçon qui... comment dire, qui a du mal à l'accepter. Mais la scène existe, tu vas la voir, elle est extraordinairement chaste, ça se passe sous les draps. Mais du coup, on était en train de se dire, mais c'est quoi le problème, en fait, avec entre
pas,
deux,
c'était
tu
une
vois
paire de seins dans le film.
Et donc, du coup, en fait, après, elle dit, il a un problème avec le fait que, en gros, je suis un trans. Et là, tu fais, ah ouais, d'accord, donc c'est bien ce qu'on avait compris, c'est un trans. Mais en fait, il faut le deviner, tu vois.
C'est pas Turkish Delight, quoi. Justement, t'avais ce truc des ados en rupture de banc par rapport à la société dans laquelle il grandissait. Enfin, je pense que quelque part, même s'il ne l'a peut-être pas vu, Turkish Delight, parce que j'ai l'impression qu'il ne l'a pas vu, mais il peut se rêver dans ce courant-là. Hein. C'est un peu délicat de comparer les deux films. Je ne sais pas si j'ai totalement raison, mais là, mais je veux dire, ce qui était intéressant dans Turkish Delight, c'est que voilà, le cul, il était là, ou dans Les Valseuses, pour prendre un truc. Il était là, il était vécu par les personnages.
Il était partie intégrante du récit.
Voilà, et du coup, les spectateurs le vivaient aussi.
Mais ceci étant
donc,
en
tu
plus,
te positionnais là-dessus, ça t'excitait un peu, ça te machin, mais du coup, ça te faisait partie de ta vie de spectateur. Là, c'est très bizarre le fait que ça ne fasse pas partie de ta vie de spectateur.
Ceci étant dit, je pense que le film ne s'adresse vraiment que à cette tranche, en fait, à cette démographie
et
de spectateurs. Oui, encore peut-être, mais
ça.
Ce que je veux dire, en tout cas, ceux qui sont d'accord avec ce que le film est censé véhiculer, parce que fondamentalement, Les Valseuses ou Turkish Delight, effectivement, ils sont à contrepoint.
Oui.
Mais je suis pas sûr, en fait, que dans la société américaine actuelle, ces ados-là soient vraiment à ce point à contrepoint, en fait, surtout dans la logique de paraître, tu vois, puisque j'ai l'impression que c'est un mouvement général et que finalement, et peut-être même encore plus qu'en Europe, les réseaux sociaux, ça dicte certaines lois, quoi. Clairement, la logique de justice sociale, elle existe aux États-Unis, elle a toujours existé, on n'a pas attendu les réseaux sociaux, mais pour le coup, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette espèce de rébellion, qui pourrait être salvatrice, en fait, elle est pas, elle est littéralement dans le mode de fonctionnement, dans un mode de fonctionnement existant, en fait, ce qui est jamais, mais jamais, jamais, jamais remis en question. Donc du coup, c'est extrêmement difficile, encore une fois, de comprendre enfin, en tout cas, de donner une espèce de gravité aux événements qui se passent. Parce que oui, fondamentalement, tu vois des gens rentrer chez des gens dans un, comme un espèce de home invasion, tu vois, et ils se butent entre eux, etc., etc. Mais c'est tellement, enfin, c'est tellement déconnecté de la réalité. Oui. Que, et ça a tellement pas d'ancrage en fait dans ce que voilà que bah tu peux pas acheter le film en fait. Moi, enfin, en tout cas moi en tant que spectateur de 42 ans tu vois, je ne peux pas acheter le film quoi.
Comme le temps passe,
je le fais pas, je sais.
Non, tu fais facile 20 ans de moins, ouais, Stéphane.
Facile.
Pour terminer, on va faire quand même comme toujours un petit tour de recommandations de bons films, hein, pour une fois, vu qu'après on a passé 20 minutes à dire que c'était nul, donc on va passer 5 minutes à trouver des choses bien, pas nécessairement dans le domaine du film de genre ou du film de purge comme c'est devenu à la mode maintenant. Vous savez, vous êtes libre de proposer ce que bon vous semble. Stéphane, il est là.
Je pointe du doigt, tu me confonds. Voilà. Moi, il y a un film ado que j'aime beaucoup, qui est pas très connu en France, mais qui
je sais ce qu'il va dire,
qui va revenir, qui je pense que revient un peu aux États-Unis, c'est culte. C'est avec Christian Slater pour le coup et Winona Ryder. Ça s'appelle Heathers en français. C'était sorti en salle. Ça s'appelait Fatal Games.
Oh.
Voilà, très beau titre français, pas
une
français.
Belle traduction.
Voilà. Et c'est réalisé par Michael Mann et écrit par Daniel Waters. Daniel Waters qu'on connaît ensuite parce qu'il a écrit notamment Fort Fairlane, Hudson Hawk. Enfin, écrit et réécrit Demolition Man et surtout Batman Returns de Tim Burton. Mmh. Et on lui doit notamment cette approche du personnage de Catwoman qui est assez formidable.
Un vrai rebelle.
Ah, ouais. Et Heathers, en fait, c'est l'histoire d'un petit groupe d'adolescentes en fait qui font un peu leur loi dans un lycée perdu au fin fond de je sais plus quel bled aux États-Unis. Et l'une d'entre elles essaye vraiment de rentrer dans ce moule social. Mmh. C'est Winona Ryder et elle tombe en fait sur un rebelle qui est Christian Slater. Et qui en fait va commencer à l'emmener dans une espèce de spirale où ils vont tuer et chercher à tuer en fait tous les connards d'adolescents voilà. Et ce qui est assez formidable dans le film, c'est que le rebelle en lui-même est aussi un connard. donc le personnage de William Ryder est vraiment coincé entre deux strates sociales, tu vois, complètement tarées.
Et elle, de la connerie.
Voilà. Et en fait, elle va se révéler à elle-même à travers ça. Et c'est pour le coup, c'est beaucoup moins graphiquement violent, on va dire, que peut-être Assassination Nation, mais c'est beaucoup plus radical. Beaucoup plus dingue aussi. En fait, il y a vraiment des scènes assez folles. Ça accuse un peu son âge. Hein. Ça a été fait dans les années 80. Ça se voit hein, visuellement. Mais pour moi, c'est un vrai film de décrassage. Et alors, pour l'anecdote, le truc qui m'a toujours fait marrer, et il l'assume, hein, j'en ai parlé avec lui, quand il a écrit ce qui est un teen movie, hein, il voulait le faire réaliser par Kubrick. Parce qu'il disait, en gros, Kubrick n'a jamais réalisé de teen movie, donc je vais écrire le teen movie pour Kubrick.
Il
quoi.
Fait tous les genres,
et il avait envoyé le film à Kubrick, qui apparemment lui a jamais répondu.
Ah, mince.
et en fait, il y a eu tout un truc comme ça, et quand je lui ai dit, il m'a dit, j'y croyais. Et il l'assume complètement. Voilà. Bon, il avait 20 ans à l'époque.
Oui, hein, mais oui.
Voilà. Et très, très, très grand film. Alors, en France, c'est très, très mal diffusé. Je crois qu'il n'y a même pas de DVD qui existe. Je crois que c'est un DVD avec que la VF. C'est sorti récemment chez Arrow, une remasterisation 4K.
Oui.
En Blu-ray, donc si vous parlez anglais, sous-titré anglais, vous pouvez vous commander ça. Ça s'appelle Heathers. Christian Slater, Winona Ryder, réalisé par Michael Lehman, écrit par le génial Daniel Waters.
Julien.
Bah moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Oui. Comme le film est photographié par Marcel Rêve, je vous conseille, et comme Thomas Rozek ne fait pas son travail...
Oh, voilà. Thomas Rozek ne peut pas tout faire.
je vous conseille donc La Lune de Jupiter, qui était sortie il y a pile un an, je crois, si mes souvenirs sont bons, de Cornel Mandruchko, qui avait déjà fait White God, qui était un film avec des chiens rebelles, une rébellion de chiens, comme ça. La Lune de Jupiter, c'est un film... Alors c'est à mi-chemin entre le film d'auteur et le film de genre. Et la trame... Enfin, moi, ça me fait un peu penser au Fils de l'Homme. C'est un petit Fils de l'Homme. Hein. C'est pas du niveau du chef-d'œuvre de
Le petit
de Quarum.
Fils de l'Homme, c'est la suite de
voilà,
Fils de l'Homme.
Voilà, c'est ça, voilà, en gros. Mais c'est un docteur un peu revenu de tout, désabusé, qui découvre, en fait, dans un camp de réfugiés, un homme, un réfugié, en fait, qui a des dons, qui notamment peut léviter. Mais c'est pas le seul pouvoir, en fait, qu'il a, mais il peut léviter. Y a plein de choses, en fait, dans la Lune de Jupiter. Mais, alors, le film a des petits soucis de rythme, il y a des trucs de pause un peu relous, qui peuvent être... J'espère pas rédhibitoire, mais enfin bon, ça peut un peu refroidir les ardeurs, etc. Mais il n'empêche, c'est un spectacle vraiment, vraiment étonnant. Il y a une ambiance très prégnante, très craspec. Évidemment, ce qu'il dit de ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est, ça reste une grande thématique, je pense, de notre époque. Hein, ces grands flux en fait, migratoires, et comment tu les empêches, et qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter, etc. Il y a cette problématique aussi de passer après les fils de l'homme. Ça, c'est quand même très compliqué pour moi. Voilà, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, d'ailleurs, dans toutes les critiques que j'avais lues de cette parenté entre ces deux films. Et pour moi, ça, c'est plus un problème qu'autre chose. Et il y a ce trip formel qui est quand même super étonnant, qui est que tu suis les moments de lévitation en fait de ce personnage, de cette espèce de mutant, en plan séquence et avec lui, tu lévites avec lui. C'est-à-dire que c'est, tu regardes pas de l'extérieur, c'est pas des vols à la Superman, c'est pas super rapide, etc. C'est très lent, il se met à décoller la caméra décolle avec lui, le père se met elle aussi à léviter, à tourner dans tous les sens, etc. Et ça te donne des longues séquences, parfois un peu trop long d'ailleurs, même des fois, ce qui est bizarre, hein, parce que moi j'adore les plans séquences, dire qu'un plan séquence est trop long, c'est quand même très bizarre, mais bon, ça donne quand même des séquences qui sont hallucinantes, où tu perds toute notion de l'espace, toute notion de haut, de bas, de droite, de gauche, et moi je sais que c'est un vrai trip en fait, c'est à voir au cinéma, ça évidemment, télé, je sais pas du tout la même chose, mais c'est, voilà, et puis en plus, t'as un autre truc qui va avec ça, et c'est pour ça que je trouve que le Venir à la Lune de Jupiter par Marcel Reif, donc le directeur de la photo, c'est intéressant, c'est qu'il y a ce sentiment de sidération que je retrouve pas si souvent que ça, moi, dans le cinéma aujourd'hui, où il y avait des moments, en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais comment ils ont fait, quoi, comment tu peux tourner
ça nous arrive plus très souvent.
Mais ça. Oui, ça, c'est génial. Et d'ailleurs, les images de tournage, alors je crois qu'elles sont dans le Blu-ray qui était sorti. Je crois qu'il y a un making-of qui me présente ces images de tournage. Enfin, moi, je les avais utilisées dans Le Grand Frisson aussi. Je fais ma pub aussi au passage. Voilà, mais ces images de tournage-là sont absolument étonnantes aussi. Du coup, comme souvent, en fait, quand tu as un truc de sidération qui arrive comme ça, quand tu vois les images de tournage, tu te dis, oh putain, ça t'ouvre une nouvelle strate toujours, en fait, d'émerveillement. En fait. Voilà.
Stéphane, tu voulais rajouter un truc?
Il était là en train de dire, ça fait chier de voir des plans séquences, machin, mais il a pas vu de Théo Gallopoulos ou de Marguerite Duras, j'ai l'impression.
Des plans séquences.
Mais ça marchait sur le moment.
Ah là, ouais, non, pardon, je t'ai forcé à dire une blague alors que t'avais pas envie. Voilà. Je suis désolé. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. C'est pas facile à dire. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Rosebud
Binge.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.